Nous arrivons à notre dernier cours et il faudrait en faire un petit bilan, nous demander, tiens, qu'est-ce que nous pouvons retirer d'un cours comme cela, qui est un survol, une introduction assez large. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui, personnelle bien sûr, et notre vie ecclésiale. Une question m'a été posée et j'y réponds très rapidement avec le livre que je vous avais recommandé de Christiane Saunier, La crise macabéenne. Pourquoi les livres des Maccabées ne sont-ils pas dans la Bible hébraïque alors que nous le trouvons dans nos Bibles courantes? Et voici la réponse. Rapidement écartés par les communautés juives, ces livres, les livres des Maccabées, et on en a ajouté encore deux autres, le troisième et le quatrième livre qui sont apocryphes, n'ont jamais été reçus dans la Bible hébraïque, dont le canon a été fixé par les docteurs de Yamnia, ou Yavne, vers la fin du premier siècle de notre ère. À ce moment-là, le judaïsme qui consistait surtout dans le pharisaïsme, ou plutôt le pharisianisme, a décidé que l'on partait sur ce que nous appelons nous un canon de l'écriture, c'est-à-dire un ensemble de dépôts sacrés. Le discrédit dans lequel étaient tombés les Asmonéens, puisque Judas, le Maccabée, Matathias, son père, leur père, étaient des descendants d'un certain Asmon qui avait été grand prêtre. Et donc, ils ont introduit dans le sacerdoce israélite, ils ont introduit une nouvelle famille, en quelque sorte, que l'on appelle les Asmonéens, dans laquelle est venu s'insérer justement Hérode le Grand. Les Hérodiens en font partie. Et ils n'étaient pas bien vus à cette époque, surtout pas Hérode. Le discrédit dans lequel étaient tombés les Asmonéens, dynastie issue des Maccabées, grand prêtre, mais en même temps roi. Et nous allons voir tout de suite ce que ça signifie. La médiocre ancienneté de ces livres, il n'était pas très traditionnel, leur édition en langue grecque, encore en plus, explique ce fait. L'Église ancienne, au contraire, les a mis en honneur dans la mesure où les développements du deuxième livre de Maccabée, chapitre 6 et chapitre 7, sur le martyr et d'une manière générale la lutte contre le paganisme, avaient une valeur exemplaire en période de persécution. Voilà ce qui fait donc le discrédit relatif que ces livres ont eu dans la tradition juive, alors qu'il y a quand même un paragraphe du Talmud qui est consacré justement à propos de la fête, de la dédicace, la fête de la Hanouka, qui se passe au moment de Noël. Et vous savez que comme la fête dure 8 jours, on allume chaque jour une des branches de la menorah. Un menorah a 9 branches, 8 pour les 8 jours de la fête, et le 9e, la petite fiole dans laquelle on a retrouvé, si vous voulez, le modèle de l'huile sacrée qui devait brûler dans le temple. Et donc, en cet honneur, c'est la fête, nous dirions aujourd'hui, la fête de la Saint-Nicolas pour les enfants, c'est-à-dire on leur donne des cadeaux, et ils allument jour après jour les 8 branches de la menorah, à partir de la 9e, qui signifie le shamash, c'est-à-dire le soleil. Bon, venons-en, si vous voulez, maintenant un peu à qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce survol. En quoi cet Ancien Testament nous est-il encore utile aujourd'hui? Vous voyez que c'est l'histoire d'Israël par rapport à sa terre, la terre promise, les 5 livres de la Torah sont consacrés à la parole de Dieu, pour autant que cette parole est un impératif, des commandements, les mitzvot, les commandements de Dieu, sont la manière dont Dieu nous libère intérieurement. Nous libère pour l'adoration du Seigneur, nous libère nous-mêmes intérieurement, et nous libère vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Car l'obligation est une liberté. L'obligation est une mise en présence d'une réalité qui nous dépasse. Et le commandement, c'est cela. Donc il est une fonction de liberté. Et ceux qui suivent le séminaire sur la Torah sont bien rendus compte. Et c'est pourquoi les commandements ont été à plusieurs reprises complétés, revus, corrigés. Ils ne sont jamais déterminés une fois pour toutes. L'obligation est une interpellation. Nous regardons souvent comme quelque chose qui nous tombe dessus, le joug de la Torah. Les Israélites s'en rendaient compte aussi, et Jésus utilise ce terme de joug. Mais un joug est une responsabilité pour tirer une charrue qui va faire vivre des frères et des sœurs. Donc, le commandement est une responsabilité. La responsabilisation de l'homme est une mise en liberté. Ça, c'est un point important. Dans la dernière annexe que j'ai ajoutée il y a 3 ans au syllabus que vous avez dans vos éditions, résume un peu les choses que je voudrais vous dire aujourd'hui. La dernière période de l'histoire d'Israël avant Jésus-Christ comprend 3 étapes. La crise hellénistique, marquée par l'intervention des frères Maccabées, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons face à la persécution, quelle que soit la manière dont nous soyons persécutés. La dynastie des grands prêtres asmonéens, qu'est-ce que c'est qu'un sacerdoce? Est-ce que le sacerdoce est un pouvoir? Est-ce que c'est une domination? Quelle est sa situation dans la vie courante? Le règne d'Hérode, que faisons-nous face à la politique, quelle que soit maintenant cette politique? Il s'agit là d'une résistance juive au progrès de l'internationalisation véhiculée par l'hellénisme. Et de fait, quand on nous demande de nous ouvrir, nous sentons la difficulté de nous ouvrir à la réalité qui nous dépasse. Et cet hellénisme était reconnu comme un éclatement des valeurs religieuses propres à Israël. Et nous risquons de vivre quelque chose d'un peu semblable, une sorte d'éclatement de nos valeurs religieuses qui nous sont propres au christianisme. En fait, ce qui est en jeu, et c'est ici le point important, c'est la trilogie culte, religieux et valeurs éthiques. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la place du culte dans notre existence? Le culte. Des modes de vie culturels, la culture. La culture qui est la réalité humaine telle qu'elle progresse au cours des siècles. Et finalement, quelle est la constitution politique? Comment le culte, le religieux, et comment la culture prennent place dans une politique, c'est-à-dire dans des rapports mutuels entre nations? Comment harmoniser ces 3 réalités sans compromettre l'acquis religieux particulier, mais à visée universelle, du Dieu un, patrimoine particulier d'Israël? Donc la question qui se posait est tout à fait analogue à celle que nous posons aujourd'hui. En germe, c'est déjà de mondialisation qu'il est question et de dialogue interreligieux, déjà dans la Bible. Rapport à Dieu et rapport entre les hommes. Universalité et singularité. Unité de Dieu et pluralité des approches. Comment nous situons-nous par rapport à tout cela ? Personne d'entre nous n'a la vérité. On ne possède pas la vérité. La vérité est un don et nous en avons perçu quelque chose. Mais aucun de nous et aucun des hommes ne peut avoir le monopole de la vérité. Dieu seul, Dieu fait homme, je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie. Jésus seul peut dire cela. Car ce que nous comprenons de Jésus est toujours partiel. Alors, le mouvement maccabéen de résistance à l'hellénisation culturelle et religieuse, décrété par Antiochus IV Épiphane, débouche sur le compromis asmonéen, je dis bien compromis, hein, les termes que je vous ai donnés sont toujours en tension les uns avec les autres. Compromis asmonéen, donc dynastie de grands prêtres, exerçant un pouvoir royal. Et c'est de cela que l'on parle dans les évangiles quand on dit les grands prêtres. Ce sont les grandes familles sacerdotales, reconnues comme un pouvoir, pouvoir religieux bien sûr, pouvoir dans le temple de Jérusalem. Et n'oublions pas que le temple de Jérusalem est aussi une banque. C'est là que se trouve le trésor, derrière le lieu de la résidence de Dieu. Donc, dynastie de grands prêtres exerçant un pouvoir royal, c'est ce que Jésus a connu, vivant à la mode hellénistique, on vit non pas à la romaine, mais on vit à la grecque, et relativisant l'impact religieux sur la vie. Ça, c'était le courant sadducéen que Jésus a rencontré. Et il n'y a pas de sadducéen parmi les disciples de Jésus. Les sadducéens, c'était généralement des grandes familles, la colonne montée, comme nous dirions aujourd'hui. Face à un peuple que l'on appelle les pauvres, les anavim, un peuple de pauvres, gardant jalousement les valeurs attachées à la Torah, mais les gardant jalousement, mais d'une façon parfois un peu restreinte, mesquine en quelque sorte, les réduisant à un certain nombre de rites. Et pour cela, réfractaires à la modernité et à la politique collaboratrice des gouvernants. Et ces gens qui faisaient la loi, si vous voulez, dans le monde des anavim, des pauvres, les enseignants, c'étaient les pharisiens. Et là, de nouveau, les pharisiens, qui sont passés aussi dans l'Église, sont tentés de prendre les choses de façon étroite et d'avoir une conscience étroite et scrupuleuse. Et c'est pourquoi ils s'appellent pharisiens, qui signifie séparés. On est séparés parce qu'on est les bons, on est les purs. Jusqu'à la sécession au désert, ça ce sont les partis extrémistes, la sécession au désert, le monde est pourri, on va vivre dans le désert, ça c'est Qumran, les Esséniens. Ou bien, partisans de l'opposition armée, ça ce sont les Zélotes. Vous voyez, Zélotes. Et d'un côté, et Qumraniens, Esséniens de l'autre. Et entre les deux, sadducéens qui pactisent avec la politique des Grecs puis des Romains, et les pharisiens qui se tiennent en réserve. Donc, une société qui, à certains égards, ressemble à la nôtre. Et n'oublions jamais le chapitre 23e de saint Matthieu qui s'adresse à nous. Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites, dit Jésus. Mais scribes et pharisiens, c'est exégètes et théologiens. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La révolte des Maccabées libère le judaïsme de la menace grecque, permettant un discernement des valeurs religieuses et de l'apport bénéfique de la modernité. Donc les deux, influence de l'hellénisme sur la valeur religieuse et l'apport bénéfique sur la présentation de la Torah. les apports bénéfiques de la modernité. Car il y a un progrès dans la modernité. Mais ce progrès va aussi interpeller notre jugement et donc notre liberté. Dès lors, naît un judaïsme sectaire, les écoles de pensée et de pratique pharisiennes, sadducéennes ou esséniennes, et Flavius Joseph, justement, s'étend très fort sur le sujet. Néanmoins, le temple de Jérusalem demeure le centre de la religion d'Israël et de la vie juive. Et je dis bien les deux, la religion et la vie, car la vie est pénétrée du rapport avec Dieu. Dédicace, reconstruction hérodienne, sacerdoce, et justement, il y a un séminaire sur l'épître aux Hébreux ce semestre qui nous a montré justement que ce qu'est, ce que peut être le véritable sacerdoce, il n'y en a qu'un, c'est celui de Jésus lui-même, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, et il y a le sacerdoce commun des fidèles, qui est la participation fraternelle au sacerdoce de Jésus. Ainsi s'installe une manière de vivre en compromis avec ces crises de persécution. Compromis avec le pouvoir grec, bien sûr, puis romain, avec des régimes politiques très variés, mais respect d'une certaine autonomie sur le plan religieux. Donc il y a une tolérance. Compromis aussi entre les différentes manières de vivre la religion juive. Il y a des traditions diverses. Il n'y a pas qu'une manière de la vivre. Il n'y a pas dans le judaïsme de magistère. Il n'y a pas une manière. Si, il y a une appartenance. Mais cette appartenance est laissée à la perception, je dirais libre, de différents courants religieux. Traditions diverses, attachant plus ou moins d'importance à la lettre des prescriptions, à l'intégrisme orthodoxe, de l'intégrisme orthodoxe au libéralisme ouvert. Nous avons cela dans le judaïsme. Et cela va passer également, d'une certaine manière, dans la tradition chrétienne. C'est le terrain que Jésus trouvera devant lui et qui souffre de nombreuses analogies avec notre situation actuelle, sans qu'il faille projeter de manière anachronique nos problèmes d'aujourd'hui sur ceux de l'autre foi biblique. Il y a une distance à conserver, mais il y a des analogies. Remarquons simplement que la Bible grecque, et là il y a un travail important qu'il ne faut pas oublier, c'est un travail d'universalisation. Quand on traduit la Bible en grec à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, c'est une ouverture pour le monde du témoignage d'Israël. Israël est là pour le monde, pour dire quelque chose au monde. Et je vous signale aussi qu'il y a un travail énorme qui a été fourni depuis 50 ans, à peu près, une équipe de Marguerite Harl, à Paris, qui a fait ce travail d'édition, de réédition et de commentaire de tous les livres dans leur traduction grecque. Nous avons les volumes, ils ne sont pas encore tous parus, mais une édition de la Septante. C'est-à-dire cette première ouverture internationale, dirons-nous, de l'écriture pour les nations. Et donc remarquons que la Bible grecque ne tranche pas, mais propose à la liberté des croyants des attitudes dont ils ont à assumer leur responsabilité. Et c'est là où la loi nous responsabilise. Je vous cite la conclusion d'un livre d'Étienne Naudet qui a beaucoup étudié Flavius Joseph et qui édite justement ses œuvres, il les réédite, et qui a écrit justement un livre sur la crise maccabéenne. L'intérêt proprement juif pour ceux qui viennent d'ailleurs à des précédents. L'ailleurs est toujours un apport, ce qui vient d'ailleurs. Abraham est venu de loin. Moïse est venu d'Égypte, supplantant littéralement Josué, le législateur local. Le Seigneur Yahvé, la divinité locale, s'est manifesté ailleurs, franchissant toute frontière et attirant du monde. Telle fut la base d'un monothéisme concret que l'État asmonéen reconvertit en un nationalisme promis à un déclin inexorable. Ça, c'est toujours notre tentation. La tentation, c'est de ramener les choses à nous, à notre vision, comme si notre vision était la seule. Telle est peut-être la pointe rédactionnelle ultime du premier livre des Maccabées. Il convient de prendre la mesure, j'ajoute cela, des différents mouvements et des soubresauts que vécut Israël sous les Séleucides grecs et les Romains pour se rendre compte de ce qui était devenu le peuple juif à la veille du christianisme. Nos schèmes mentaux, alimentés par une présentation simplificatrice des auteurs juifs ou évangéliques, ne perçoivent ou n'intègrent pas toujours la complexité des facteurs qui contribuèrent à fonder le judaïsme après l'exil. Or, c'est dans ce milieu que vécut Jésus. C'est à partir de là qu'il nous parle aujourd'hui. La prise en compte de l'épaisseur de l'histoire nous aide à jeter sur notre monde un regard plus nuancé, nous ouvrant ainsi à plus de liberté intérieure. Et je voudrais ajouter quelques remarques à ce sujet. Première chose que nous avons touchée, si je ne suis pas entré trop dans les détails, c'est parce qu'il y avait un syllabus. Et le rapport que vous pouvez avoir avec ce syllabus, vous pouvez le continuer encore et revenir à cela. Mais j'ai essayé de vous transmettre certaines lignes générales, certaines réflexions qui passent à travers, comme des trajectoires à travers toute la Bible. D'abord, nous avons vu qu'il y avait un rapport entre l'histoire humaine et la théologie, mais comme deux visions différentes, mais deux visions contemporaines. Nous vivons dans un réel humain et nous vivons dans une réalité intérieure qui est notre rapport avec Dieu. C'est ça qu'Israël nous dit. Israël, c'est un groupement d'hommes, un peuple, une nation, les deux termes sont utilisés, goy, la nation, ou am, le peuple. Am, dans la théologie juive, c'est l'unité du peuple qui est donnée par Dieu, par son rapport vertical. Mais on vit aussi dans une dimension horizontale. Et il faut justement permettre à ces deux dimensions d'être vécues ensemble. Le dessein de Dieu est vécu dans une programmation humaine, dans une politique. L'histoire de salut se déroule à l'intérieur d'une histoire humaine et nous ne pouvons pas nous séparer totalement. Nous avons à vivre notre réalité humaine. Et donc, la chronologie et la topologie, la géographie sont importantes. Mais ce n'est pas tout le réel. C'est le réel tel qu'il apparaît dans la succession des époques. Mais le réel, c'est pour Israël la théologie, c'est-à-dire l'explicitation du rapport avec Dieu qui s'exprime dans un comportement. Donc, l'histoire d'Israël, ce sont les vicissitudes d'une alliance avec Dieu dans un monde humain. Et donc il y a toujours des compromis à vivre. Il y a toujours des tensions. Et nous ne pouvons pas aller dans un sens total ou dans l'autre. Le radicalisme d'un côté comme de l'autre échoue. Parce qu'il ne voit pas que ce qui est important, c'est l'attention. Et cette attention forme notre liberté intérieure. Alors vous voyez, quand nous parlons de réel, c'est quoi le réel? Pour la plupart des gens, le réel, c'est ce qui se vit dans ce monde. Pour la Bible, ça c'est le monde des apparences. Le réel, c'est le rapport interne que les hommes et que les sociétés ont avec Dieu. Et c'est pourquoi le cadre théologique dans lequel la Bible s'exprime, la Bible d'Israël, et puis le christianisme, c'est l'alliance. Alliance avec Dieu, alliance avec les hommes. Mais cette alliance suppose un certain nombre de conditions. Il faut que les deux puissent marcher ensemble, mais toujours en tension. Donc, quand nous parlons d'histoire et de théologie, c'est ce que nous avons essayé de faire, ce sont deux dimensions que nous avons sans cesse à mettre ensemble. Je viens de parler, dans l'annexe que je vous ai lue, de trois réalités qui doivent s'harmoniser. Le culte, le rapport à Dieu. La culture, le rapport aux hommes. Et la politique, c'est-à-dire la manière concrète de vivre nos rapports. Et nous voyons que c'est extrêmement difficile dans notre effort de mondialisation, de rapport entre les peuples, de dialogue interreligieux, ou comme on dit aujourd'hui, de dialogue interconvictionnel. Nous avons des convictions diverses. Comment pouvons-nous vivre ensemble? C'est vraiment le problème fondamental. Alors, est-ce que la religion est un pouvoir? Est-ce que la théocratie est possible? Est-ce que vivre ensemble sous le même Dieu, est-ce possible? Alors que les intérêts sont vraiment divers. Mais l'homme reste l'homme. Et toujours avec sa liberté et avec la liberté, c'est-à-dire les conventions des différents États, des différentes nations. Et nous avons toujours à affronter le pouvoir, l'autorité. Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Est-ce que le pouvoir est une domination ou un service? Le service du bien commun. Et alors nous voyons que le pouvoir doit être tempéré par une autorité qui est souvent de type moral. Une autorité, c'est un pouvoir reconnu et un pouvoir co-géré. Et ce n'est pas pour rien que Jean-Louis Ska, dans ce livre qui vient de paraître, Le livre scellé et le livre ouvert, qui est une lecture de l'Ancien Testament, termine son livre par droit et institutions dans la Bible. Il s'agit d'abord de l'histoire du sacerdoce, puis de l'histoire de l'institution des anciens, nous allons y venir tout de suite, et puis, son dernier chapitre, droit biblique et démocratie occidentale. Et c'est fort intéressant parce qu'il montre justement comment notre démocratie occidentale est inspiré finalement par le droit biblique et par ce régime d'une certaine autonomie relative à la présence divine et relative aux nations qui entourent. C'est pas pour rien que les prophètes ont toujours des oracles contre les nations, mais interpellatrices des nations, et contre Israël et Juda. Et si vous regardez le plan du livre d'Isaïe tel qu'il a été constitué après l'exil, vous remarquerez qu'il y a une théologie extraordinaire dans ce livre. Ceux qui ont fait le séminaire sur le prophétisme avec le livre d'Isaïe s'en sont bien rendus compte. Alors, il s'agit maintenant de voir un peu qu'est-ce que le sacerdoce vient faire dans cette histoire. Et pourquoi y a-t-il une sorte de collusion ou d'opposition, voire d'opposition, entre ce que nous appelons le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles? Quelles sont les origines et quelle est l'histoire du sacerdoce à travers Israël, les nations et le christianisme? C'est une longue histoire. Si nous regardons d'abord ce qu'est le sacerdoce dans la plupart des religions, il y a un sacerdoce partout, dans toutes les religions un peu constituées, et sur des manières très diverses. Depuis le sorcier, par exemple, ou bien celui qui donne des oracles de la part de Dieu, ou celui qui gère une communauté religieuse avec des rites. Il y a différentes formes de sacerdoce. Et il y a des sacerdoces masculins et des sacerdoces féminins, des prêtres ou des prêtresses. Donc c'est une réalité qu'en histoire des religions, on trouve absolument partout, sous des formes diverses. Alors, quelle est la mentalité, la perception qui est derrière cela? C'est que il y a deux mondes. Le monde humain, le monde visible, et le monde divin ou transcendant, l'invisible. Mais il est réel et il se laisse percevoir. Mais comme ces deux mondes sont souvent séparés, ne sont pas toujours perçus ni perçus de la même manière, il faut qu'il y ait des passages, des passerelles entre les deux. Et donc, ce qu'on appelle médiation, le passage d'un monde à l'autre, du monde sacré au monde profane. Sacré, ça veut dire ce qui dépasse. Je ne dis pas saint, saint c'est différent. Le sacré, c'est le monde qui dépasse, le monde invisible, le monde supérieur, le monde de ce qu'on ne maîtrise pas. Le monde de la vie, limité. Et le profane, profanum, ce qui se trouve devant le temple, ce qui ne se vit pas à l'intérieur du temple ou de la communauté, mais ce qui vient du dehors. Le profane, c'est tout cela. C'est tout l'extérieur. C'est la vie du monde, disons, sans Dieu. Abstraction faite de Dieu. Et donc, il faut des passages. Et ces passages sont constitués par des êtres humains, bien entendu, hommes ou femmes, qui ont quelque rapport avec la vie, puisque Dieu est ce qui donne la vie, finalement, la vie remonte à lui, des rapports avec la vie, et qui deviennent en quelque sorte les spécialistes du sacré. Mais ils viennent des spécialistes du sacré pour les hommes. Mais ce sacré est toujours perçu de manière diverse par des populations diverses. Et la difficulté pour ce sacerdoce, c'est de faire du passage en question un service et non un pouvoir. Le pouvoir se détermine souvent dans ce monde du sacré par la magie. Si je fais les choses de telle manière, eh bien, j'en aurai du bénéfice. Si je ne les fais pas ainsi, ça va rater. Et donc, on peut jeter un sort sur ces personnes qui ne feraient pas comme on leur dit de faire. Et c'est comme ça que vous avez, dans toutes des tribus, hein, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, les tribus ont une certaine manière de vivre avec un certain nombre de tabous. Et ces tabous donnent en quelque sorte une assurance. C'est ce que j'appelle le réflexe sécuritaire. Nous avons besoin de sécurité, besoin pour continuer à vivre. Est-ce que demain je pourrai encore vivre? Comment me garantir contre les intempéries, contre tout ce qui va se passer et dont j'ai peur? Et nous avons tous ce sentiment de sécurité, cette recherche de sécurité. Mais n'oublions pas que la sécurité, c'est nous qui en sommes le centre. Et donc, pour avoir une certaine garantie, j'ai besoin de personnes spécialisées dans les rapports entre le divin et l'humain, de personnes spécialisées auxquelles je puisse avoir recours. Et c'est ce qu'on trouve absolument dans toutes les religions sous des formes diverses. Dans l'Ancien Testament, nous avons quelque chose de semblable. Au début, il n'y a pas de prêtre. En tout cas, pas de prêtre en Israël. Abraham, c'est celui qui a donné la vie, mais il fait recours à Melchisédek précisément, à un prêtre païen, qui offre quoi ? Du pain et du vin. C'est quoi du pain et du vin ? Mais ce sont des fruits de la terre, mais du travail de l'homme. La nature et la culture. La culture qui travaille la nature pour donner la vie aux contemporains. Mais dans la mentalité biblique, le pain est une nourriture féminine. Le pain, c'est cette vitalité, cette vie qui se plaît moulu et mêlé à de l'eau. Comme la vie dans le ventre de la femme qui vit dans cette eau, dans cette source de vie. Et donc, c'est conçu comme une présence féminine à côté de la présence masculine qui est le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Le vin est une boisson féminine, elle donne courage. C'est la boisson des guerriers. Mais pour obtenir du pain et du vin, il faut tout un travail, le travail d'une année entière. Et ce travail est un travail de broiement, on broie les grains. On broie les raisins. Et finalement, le travail de tout le monde et la souffrance de tout le monde met du pain et du vin sur la table. Et nous avons ça déjà dans l'histoire d'Abraham qui, pour fêter une victoire, a recours à Melchisédek. Un homme qui arrive comme ça, une sorte de charismatique, hein. Il n'a pas de tradition sacerdotale. En Israël, il y a une tradition sacerdotale. Mais petit à petit, elle va se constituer. Ce sont les Lévites, les fils d'Aaron. Non, la tribu de Lévi n'a pas de territoire. Elle travaille au service du temple, au service de Dieu et au service des fidèles. Parce que Dieu et les fidèles, ben, ça ne fait qu'un. Puisque c'est Dieu qui vit dans les fidèles. Et donc, en Israël, il y a une tribu de gens spécialisés pour le sacré. Et des rapports entre le sacré et l'humain. D'ailleurs, la présence de Dieu, elle est invisible. Elle est dans un cube, un volume noir. Et il y a un siège, c'est l'Arche d'Alliance, hein, qui est le siège où Dieu est censé résider. Il est censé résider, mais on sait bien qu'il est plus grand que cela. Toute la terre est mon domaine. Mais il y a un lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter, son nom. Son nom, c'est lui, et c'est pas lui. C'est lui en tant qu'invisible qui nous dépasse et en tant qu'invisible intérieur. Le nom de Dieu, cette présence, ce mystère qui nous fait exister comme une personne particulière. Dieu existe comme une personne particulière qui englobe toutes les personnes depuis la première jusqu'à la dernière. Le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et donc il y a tout un service divin. Et les prêtres sont constitués. Mais les prêtres sont essentiellement des bouchers, des immolateurs. Ah, qu'est-ce qu'ils tuent ? Ils tuent des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire tuer un animal ? Ça veut dire tuer l'animal qui est en nous. Nous sommes des animaux. Mais nous ne sommes pas que des animaux. Et donc il faut tuer cette animalité pour pouvoir nous offrir. C'est un geste extraordinaire, le sacrifice. Sacrifier des animaux, ou bien alors offrir ce qui est notre nourriture, des gâteaux, des offrandes qui sont justement fruits de la terre et du travail des hommes. Et donc les sacrifices sont quelque chose d'important. Mais il faut une certaine pureté. Qu'est-ce que c'est qu'une pureté ? Il y a une pureté morale, bien entendu, c'est-à-dire être unifié. Mais il y a aussi une pureté rituelle, des choses qu'il faut faire pour être pur, c'est-à-dire les choses qu'il faut faire comme il faut, comme c'est déterminé, dans un milieu social. Donc, le prêtre, il est responsable du culte, de l'offrande, des sacrifices. Et il sait comment il faut faire. Il a été formé pour savoir comment il doit faire. Pourquoi il doit toucher avec le sang d'un animal, le lobe de l'oreille, le pouce ou l'orteil, le gros orteil. Des choses pareilles. Ça va jusque dans les petits détails. Pourquoi ? Par sécurité. Il faut que ça soit comme ça. Si ça ne va pas comme ça, il risque de nous tomber quelque chose dessus, un malheur. Donc il est responsable des sacrifices. Deuxièmement, il est le gardien de la Torah. Et donc il est celui qui explique l'écriture. Puisque la vie est essentiellement religieuse, c'est les rapports avec Dieu, donc toute la vie a un comportement religieux. Nous avons vu cela aussi avec Esdras et Néhémie, la reprise après l'exil, fait encore mention de cela. Et puis, il est aussi le médiateur. Il dit la parole de Dieu. Il explique l'écriture, qui est la mémoire du peuple. Il explique le sens de la mémoire et il nous donne les oracles de Dieu. C'est comme ça que Moïse intervient, c'est comme ça que le roi David, Salomon, etc., nous les avons vus intervenir. Mais ce ne sont pas des gens exemplaires, ce sont des gens de tous bords. Parce que Dieu travaille avec les hommes et les femmes tels qu'ils ou qu'elles sont. Donc voilà la fonction. La fonction des prêtres en Israël, mais Israël est prêtre parmi les nations. Mamleket Kohanim, Vegoy Kadosh, chapitre 19, verset 6 de l'Exode. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Une nation sainte qui va être témoin de la présence de Dieu, éventuellement exemplaire, entre guillemets, pour les nations du monde. C'est ce que on s'imagine, que la manière de vivre d'Israël deviendra exemplaire pour le monde. Et cela va être repris par le christianisme. Est-ce que la manière de vivre en chrétien est exemplaire pour le monde ? Et vous voyez que nous n'en sommes pas plus loin. Alors, il y a cependant une évolution déjà en Israël du sacerdoce. Ils sont gardiens de la Torah. Donc, ils sont la mémoire du peuple. Donc, leur comportement devrait être exemplaire. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Et petit à petit, on passe de cette réalité intérieure qui devrait dominer toute la vie, on passe de cela à la célébration rituelle de sacrifice. Et toute l'attention va devenir le rite. Et nous voyons en Israël qu'il faut justement, jusqu'à un certain point, conjurer ce rite, cette ritualisation à l'extrême. Et donc il faut tout le temps revenir à l'essentiel. D'où les prophètes, l'importance des prophètes à côté des rois. Parce que c'est très bien que les prêtres fonctionnent comme ils doivent fonctionner, que les lévites chantent comme ils doivent chanter, que l'on explique l'écriture comme on doit l'expliquer, comme on doit. Mais est-ce que la liberté est présente? Est-ce que le peuple est le témoin de la liberté de Dieu dans le monde? Et donc on voit que le temple va être pris comme le point important. Et dans la tradition deutéronomiste, et aussi, mais d'une autre manière, dans la tradition sacerdotale. Mais le temple, c'est quoi le temple? Mais le temple, c'est le peuple. Puisque toute la terre est le domaine de Dieu, toute la vie est présence de Dieu. Il parlait du temple de son corps, dit Saint Jean, chapitre 2e de son évangile. Et donc, on va ramener toujours les choses au plus sûr. Et par exemple, si vous lisez le livre du Lévitique, et si vous le lisez surtout sans avoir en tête la notion profonde de symbole, vous dites, mais on lit pas ça, ce sont des rites, tout ça est passé. Oui, ça risque justement d'être passé. Parce qu'on devient tellement esclave du rite, qu'on n'a plus cette liberté intérieure, on n'a plus cette vie où Dieu devient véritablement présent. Jésus se trouve devant cette réalité. On voit qu'il va prier dans le temple, on ne dit pas grand-chose sur les prêtres. Oui, les grands prêtres. Mais on regarde toujours les grands prêtres dans l'évangile comme un pouvoir. Pouvoir de domination, pouvoir aussi d'interprétation du comportement, scribes et pharisiens hypocrites. Et Jésus se met en marge de cette réalité-là. Et il apporte une nouveauté. Il casse en quelque sorte ce système du sacré et du profane. Et il casse cette réalité de par son incarnation même. Dieu est présent dans cette chair humaine. Cette chair humaine est une présence divine. A-t-il encore besoin d'un lieu? Et nous verrons que quand le temple sera détruit définitivement par les Romains en l'an 70, on ne le reconstruira pas. Il y a toujours des nostalgiques qui voudraient reconstruire le temple, c'est sûr. Mais on ne le reconstruira pas. Tu habites les louanges d'Israël, disait déjà le psaume. Dieu habite les louanges d'Israël. Le culte de Dieu est un culte intérieur. Et si Jésus est le grand prêtre, compatissant et miséricordieux, épître aux Romains, dans la vie, il n'est même pas prêtre, dit cet épître aux Romains. Il n'est pas de la tribu de Lévi, il n'est pas prêtre de père en fils. Il est prêtre d'une toute autre manière, il est prêtre parce qu'il est fils de Dieu. Et il ne rougit pas d'appeler ses frères les hommes. Il les appelle ses frères. Et dans l'épître aux Hébreux, le sacerdoce du Christ fonde le sacerdoce commun des fidèles. C'est tout à fait différent de cette structure que nous trouvons sacrée profane. Il n'y a plus de sacré et de profane. Il y a la sainteté de Dieu qui assume notre humanité. Et tout le travail de spiritualisation, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, qui doit transformer notre vie et la rendre capable de Dieu, la rendre filiale, cela, c'est vraiment la tâche de l'homme. Nouveau Testament, Jésus dit à la Samaritaine, « Oh, c'est ni à Jérusalem, ni au mont Garizim que l'on doit célébrer, que l'on doit adorer Dieu. On adore Dieu en esprit et vérité. » La vérité, c'est Jésus. L'esprit, c'est l'esprit de Jésus. La véritable adoration, c'est l'adoration dans la réalité humaine assumée une fois pour toutes par Jésus. Et alors, les rapports entre les hommes changent. Et au chapitre 2e de l'Épître aux Éphésiens, Saint Paul, qui dit la même réalité, il n'y a plus ni le juif, ni le païen. Il n'y a plus ni l'homme, ni la femme. Il n'y a plus le maître, ni l'esclave. C'est-à-dire, il n'y a plus de cloisonnement entre les hommes. Tous les hommes sont une présence de Dieu. À charge de la découvrir progressivement et de la vivre ensemble. Et donc le sacrifice, chapitre 12e de l'Épître aux Romains, le sacrifice est un sacrifice spirituel, un sacrifice dans l'Esprit Saint. Et ce n'est plus un sacrifice sanglant, mais ce qui signifie que toute notre personnalité devient et devient de plus en plus filiale. Comment les choses se sont-elles passées après Jésus? Jésus qui n'était même pas prêtre. Et dans les premières communautés chrétiennes, jusqu'au 3e, 4e siècle, il n'y avait pas de sacerdoce. Les apôtres, les successeurs des apôtres, faisaient l'Eucharistie avec le peuple, dans les maisons. Et ils allaient encore au temple, parce qu'ils étaient juifs et qu'ils voulaient vivre leur appartenance. Et petit à petit, surtout à partir de Constantin et de la conversion de Constantin, 4e siècle, à partir de ce moment-là, on a groupé, on ne célébrait plus dans les maisons. Et on ne... Dans les maisons, lorsqu'on célébrait l'Eucharistie, regardez par exemple la Didaké, vous avez lu la Didaké, on célébrait l'Eucharistie dans les maisons, et là, on relisait l'Écriture. Et la vie était toujours le rapport à la parole de Dieu assumée en Jésus-Christ. Et on relisait toute l'Écriture à partir de Jésus-Christ. C'était l'essentiel. Cette proclamation, qui était d'ailleurs un des apanages du sacerdoce de l'Ancien Testament, le gardien de la mémoire du peuple. Et alors, petit à petit, quand on a regroupé les fidèles, au moment où les temples païens vont devenir des temples chrétiens, c'est un temple consacré à Apollon, et c'est devenu un temple consacré à Jésus. C'était une déesse Aphrodite, c'est devenu un temple à la Vierge Marie. Et donc, on a repris une certaine, je dirais, idolâtrie païenne, on l'a reprise de plus en plus, et on l'a remis dans les grandes célébrations extérieures. Dans les basiliques, vous savez que basilique, c'est là où siège le basileus, le roi, dans les basiliques que l'on a construites, bien, on a fait une pompe plus ou moins semblable à celle que l'on faisait aux empereurs. Et si vous voyez Saint Jean Chrysostome, hein, dans Sainte Sophie de Constantinople, hein, il dit, mais où est-il Dieu? Vous venez ici en beaux atours, en grande procession, où est-il Dieu? Allez à la porte, dans les pauvres. C'est là qu'il se trouve, pas dans le temple. Alors vous voyez, il y a toujours ce danger de ce que nous appelons aujourd'hui le cléricalisme. C'est-à-dire de faire de notre savoir ou de notre réalité extérieure, de faire un pouvoir. Et ce danger-là intervient constamment. Là, avant le Concile de Trente, la Réforme a insisté précisément sur la parole. Vous oubliez la parole, c'est-à-dire la parole vivante que vous vivez véritablement dans votre présence au Seigneur, et vous oubliez la parole pour le service extérieur, pour le ritualisme. Et justement, Vatican II va revenir sur l'importance de la parole, de la proclamation de la parole. Le sacrifice de Jésus, vous faites, faites ceci en mémoire de moi. Cette parole était donnée pour montrer cette présence continuelle de Jésus, de Dieu présent dans son Église, dans notre chair humaine. Et cette chair humaine est toujours fragile. Et la rédemption est achevée en Jésus. À charge qu'elle s'achève, qu'elle se vive et qu'elle s'achève dans notre vie mortelle. Et il faudrait refaire toute cette histoire du sacerdoce pour découvrir à la fois sa beauté et la tentation que le sacerdoce mène toujours avec lui de faire de notre réalité une caste. Comme du temps de Jésus. Cette tension existera toujours. Mais cette tension, c'est précisément cela qui nous fait vivre et qui nous met en liberté. Et d'étudier l'histoire de l'Ancien Testament, qui, dans un certain sens, se trouve avant Jésus. Mais c'est encore notre histoire. Parce que si Jésus est venu, et s'il est vraiment venu en nous, il n'est pas encore... Sa venue n'est pas encore achevée en chacun de nous. Et le judaïsme est indispensable pour nous montrer que l'Église, ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Mais l'Église n'est pas encore Jésus venu définitivement sur terre. Et nous sommes constamment en état de passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Il est présent dans notre existence. Merci.